Honoré de Balzac, Illusion perdue, 37. Dans la vie des ambitieux et de tous ceux qui ne peuvent parvenir qu'à l'aide des hommes et des choses, par un plan de conduite plus ou moins bien combiné, suivi, maintenu, il se rencontre un cruel moment où je ne sais quelle puissance les soumet à de rudes épreuves. Tout manque à la fois. De tous côtés, les fils rompent ou s'embrouillent. Le malheur apparaît sur tous les points. Quand un homme perd la tête au milieu de ce désordre moral, il est perdu. Les gens qui savent résister à cette première révolte des circonstances, qui se roidissent en laissant passer la tourmente, qui se sauvent en gravissant par un épouvantable effort la sphère supérieure, sont les hommes réellement forts. Tout homme, à moins d'être né riche, a donc ce qu'il faut appeler sa fatale semaine. Pour Napoléon, cette semaine fut la retraite de Moscou. Ce cruel moment était venu pour Lucien. Tout s'était trop heureusement succédé pour lui dans le monde et dans la littérature. Il avait été trop heureux. Il devait voir les hommes et les choses se tourner contre lui. La première douleur fut la plus vive et la plus cruelle de toutes. Elle l'atteignit là où il se croyait invulnérable, dans son cœur et dans son amour. Coralie pouvait n'être pas spirituelle, mais douée d'une belle âme, elle avait la faculté de la mettre en dehors par ces mouvements soudains qui font les grandes actrices. Ce phénomène étrange, tant qu'il n'est pas devenu comme une habitude par un long usage, est soumis aux caprices du caractère et souvent à une admirable pudeur qui domine les actrices encore jeunes. Intérieurement naïve et timide, en apparence hardie et leste, comme doit être une comédienne, Coralie, encore aimante, éprouvait une réaction de son cœur de femme sur son masque de comédienne. L'art de rendre les sentiments, cette sublime fausseté, n'avait pas encore triomphé chez elle de la nature. Elle était honteuse de donner au public ce qui n'appartenait qu'à l'amour. Puis elle avait une faiblesse particulière aux femmes vraies. Tout en se sachant appelée à régner en souveraine sur la scène, elle avait besoin du succès. Incapable d'affronter une salle avec laquelle elle ne sympathisait pas, elle tremblait toujours en arrivant en scène. Et alors, la froideur du public pouvait la glacer. Cette terrible émotion lui faisait trouver dans chaque nouveau rôle un nouveau début. Les applaudissements lui causaient une espèce d'ivresse, inutile à son amour-propre, mais indispensable à son courage. Un murmure de désapprobation ou le silence d'un public distrait lui ôtait ses moyens. Une salle pleine, attentive, des regards admirateurs et bienveillants, l'électrisait. Elle se mettait alors en communication avec les qualités nobles de toutes ses âmes et se sentait la puissance de les élever, de les émouvoir. Ce double effet accusait bien et la nature nerveuse et la constitution du génie, en trahissant aussi les délicatesses et la tendresse de cette pauvre enfant. Lucien avait fini par apprécier les trésors que renfermait ce cœur. Il avait reconnu combien sa maîtresse était jeune fille. Inhabile aux faussetés de l'actrice, Coralie était incapable de se défendre contre les rivalités et les manœuvres des coulisses auxquelles s'adonnait Florine, fille aussi dangereuse, aussi dépravée déjà, que son amie était simple et généreuse. Les rôles devaient venir trouver Coralie. Elle était trop fière pour implorer les auteurs et subir leurs déshonorantes conditions, pour se donner au premier journaliste qui la menacerait de son amour et de sa plume. Le talent, déjà si rare dans l'art extraordinaire du comédien, n'est qu'une condition du succès. Le talent est même longtemps nuisible s'il n'est accompagné d'un certain génie d'intrigue qui manquait absolument à Coralie. Prévoyant les souffrances qui attendaient son ami à son début au gymnase, Lucien voulut à tout prix lui procurer un triomphe. L'argent qui restait sur le prix du mobilier vendu, celui que Lucien gagnait, tout avait passé au costume, à l'arrangement de la loge, à tous les frais d'un début. Quelques jours auparavant, Lucien fit une démarche humiliante à laquelle il se résolut par amour. Il prit les billets de Fendant et Cavalier, se rendit rue des Bourdonnais au Cocon d'Or pour en proposer l'escompte à Camusot. Le poète n'était pas encore tellement corrompu qu'il put aller froidement à cet assaut. Il laissa bien des douleurs sur le chemin. Il le pava des plus terribles pensées en se disant alternativement « Oui, oh non !» Mais il arriva néanmoins au petit cabinet froid, noir, éclairé par une cour intérieure, où siégeait gravement non plus l'amoureux de Coralie, le débonnaire, le fainéant, le libertin, l'incrédule Camusot qu'il connaissait, mais le sérieux père de famille, le négociant poudré de ruses et de vertus, masqué de la pruderie judiciaire d'un magistrat du tribunal de commerce, et défendu par la froideur patronale d'un chef de maison, entouré de commis, de caissiers, de cartons verts, de factures et d'échantillons, bardé de sa femme, accompagné d'une fille simplement mise. Lucien frémit de la tête aux pieds en l'abordant, car le digne négociant lui jeta le regard insolemment indifférent qu'il avait déjà vu dans les yeux des escompteurs. « Voici des valeurs. Je vous aurais 1000 obligations si vous vouliez me les prendre, monsieur, » dit-il en se tenant debout auprès du négociant assis. « Vous m'avez pris quelque chose, monsieur, » dit Camusot. « Je m'en souviens. » Là, Lucien expliqua la situation de Coralie à voix basse et en parlant à l'oreille du marchand de soieries, qui put entendre les palpitations du poète humilié. Il n'était pas dans les intentions de Camusot que Coralie éprouvât une chute. En écoutant, le négociant regardait les signatures et sourit. Il était juge au tribunal de commerce. Il connaissait la situation des libraires. Il donna 4 500 francs à Lucien à la condition de mettre dans son endos valeur reçue en soierie. Lucien alla sur-le-champ voir Braulard et fit très bien les choses avec lui pour assurer à Coralie un beau succès. Braulard promit de venir et vint à la répétition générale, afin de convenir des endroits où ces Romains déploieraient leur battoir de chair et enlèveraient le succès. Lucien remit le reste de son argent à Coralie en lui cachant sa démarche auprès de Camusot. Il calma les inquiétudes de l'actrice et de Bérénice, qui déjà ne savait comment faire aller le ménage. Martinville, un des hommes de ce temps qui connaissait le mieux le théâtre, était venu plusieurs fois faire répéter le rôle de Coralie. Lucien avait obtenu de plusieurs rédacteurs royalistes la promesse d'articles favorables. Il ne soupçonnait donc pas le malheur. La veille du début de Coralie, il arriva quelque chose de funeste à Lucien. Le livre de d'Arthez avait paru. Le rédacteur en chef du journal d'Hector Merlin donna l'ouvrage à Lucien comme à l'homme le plus capable d'en rendre compte. Il devait sa fatale réputation en ce genre aux articles qu'il avait faits sur Nathan. Il y avait du monde au bureau, tous les rédacteurs s'y trouvaient. Martainville y était venu s'entendre sur un point de la polémique générale adoptée par les journaux royalistes contre les journaux libéraux. Nathan, Merlin, tous les collaborateurs du Réveil s'y entretenaient de l'influence du journal semi-hebdomadaire de Léon Giraud, influence d'autant plus pernicieuse que le langage en était prudent, sage et modéré. On commençait à parler du cénacle de la rue des Quatre Vents, on l'appelait une convention. Il avait été décidé que les journaux royalistes feraient une guerre à mort et systématique à ses dangereux adversaires, qui devinrent en effet les metteurs en œuvre de la doctrine, cette fatale secte qui renversa les Bourbons dès le jour où la plus mesquine des vengeances amena le plus brillant écrivain royaliste à s'allier avec elle. D'Arthez, dont les opinions absolutistes étaient inconnues, enveloppé dans l'anathème prononcé sur le cénacle, allait être la première victime. Son livre devait être échiné, selon le mot classique. Lucien refusa de faire l'article. Ce refus excita le plus violent scandale parmi les hommes considérables du parti royaliste venus à ce rendez-vous. On déclara nettement à Lucien qu'un nouveau converti n'avait pas de volonté. S'il ne lui convenait pas d'appartenir à la monarchie et à la religion, il pouvait retourner à son premier camp. Merlin et Martainville le prirent à part et lui firent amicalement observer qu'il livrait Coralie à la haine que les journaux libéraux lui avaient vouée et qu'elle n'aurait plus les journaux royalistes et ministériels pour se défendre. L'actrice allait donner lieu sans doute à une polémique ardente qui lui vaudrait cette renommée après laquelle soupirent toutes les femmes de théâtre. « Vous n'y connaissez rien, » lui dit Martainville. « Elle jouera pendant 3 mois au milieu des feux croisés de nos articles et trouvera 30 000 francs en province dans ses 3 mois de congé. Pour un de ces scrupules qui vous empêcheront d'être un homme politique et qu'on doit fouler aux pieds, vous allez tuer Coralie et votre avenir. Vous jetez votre gagne-pain. » Lucien se vit forcé d'opter entre d'Arthez et Coralie. Sa maîtresse était perdue s'il n'égorgeait pas d'Arthez dans le grand journal et dans le Réveil. Le pauvre poète revint chez lui, la mort dans l'âme. Il s'assit au coin du feu dans sa chambre et lut ce livre, l'un des plus beaux de la littérature moderne. Il laissa des larmes de page en page. Il hésita longtemps, mais enfin, il écrivit un article moqueur comme il savait si bien en faire. Il prit ce livre comme les enfants prennent un bel oiseau pour le déplumer et le martyriser. Sa terrible plaisanterie était de nature à nuire au livre. En relisant cette belle œuvre, tous les bons sentiments de Lucien se réveillèrent. Il traversa Paris à minuit, arriva chez d'Arthez, vit à travers les vitres trembler la chaste et timide lueur qu'il avait si souvent regardée avec les sentiments d'admiration que méritait la noble constance de ce vrai grand homme. Il ne se sentit pas la force de monter. Il demeura sur une borne pendant quelques instants. Enfin, poussé par son bon ange, il frappa, trouva d'Arthez lisant et sans feu. « Que vous arrive-t-il ? » dit le jeune écrivain en apercevant Lucien et devinant qu'un horrible malheur pouvait seul le lui amener. « Ton livre est sublime !» s'écria Lucien, les yeux pleins de larmes, et ils m'ont commandé de l'attaquer. « Pauvre enfant, tu manges un pain bien dur, » dit d'Arthez. « Je ne vous demande qu'une grâce, gardez-moi le secret sur ma visite et laissez-moi dans mon enfer à mes occupations de damnés. Peut-être ne parvient-on à rien sans s'être fait des calus aux endroits les plus sensibles du cœur. »
Toujours le même, dit d'Arthez.
Me croyez-vous un lâche? Non, d'Arthez, non. Je suis un enfant ivre d'amour. Et il lui expliqua sa position.
Voyons l'article, dit d'Arthez, ému par tout ce que Lucien venait de lui dire de Coralie.
Lucien lui tendit le manuscrit. D'Arthez le lut et ne put s'empêcher de sourire.
Quel fatal emploi de l'esprit, s'écria-t-il.
Mais il se tut, en voyant Lucien dans un fauteuil, accablé d'une douleur vraie.
Voulez-vous me le laisser corriger? Je vous le renverrai demain, reprit-il.
La plaisanterie déshonore une œuvre. Une critique grave et sérieuse est parfois un éloge. Je saurai rendre votre article plus honorable et pour vous et pour moi.
D'ailleurs, moi seul, je connais bien mes fautes.
En montant une côte aride, on trouve quelquefois un fruit pour apaiser les ardeurs d'une soif horrible.
Ce fruit, le voilà, dit Lucien, qui se jeta dans les bras de d'Arthez, y pleura et lui baisa le front en disant
« Il me semble que je vous confie ma conscience pour me la rendre un jour.
Je regarde le repentir périodique comme une grande hypocrisie, dit solennellement d'Arthez.
Le repentir est alors une prime donnée aux mauvaises actions.
Le repentir est une virginité que notre âme doit à Dieu.
Un homme qui se repent deux fois est donc un horrible sycophante.
J'ai peur que tu ne vois que des absolutions dans tes repentirs. »
Ces paroles foudroyèrent Lucien qui revint à pas lents rue de la Lune. Le lendemain, le poète porta au journal son article, renvoyé et remanié par d'Arthez. Mais depuis ce jour, il fut dévoré par une mélancolie qu'il ne sut pas toujours déguiser. Quand, le soir, il vit la salle du gymnase pleine, il éprouva les terribles émotions que donne un début au théâtre et qui s'agrandirent chez lui de toute la puissance de son amour. Toutes ses vanités étaient en jeu. Son regard embrassait toutes les physionomies comme celui d'un accusé embrasse les figures des jurés et des juges. Un murmure allait le faire tressaillir. Un petit incident sur la scène, les entrées et les sorties de Coralie, les moindres inflexions de voix, devaient l'agiter démesurément. La pièce où débutait Coralie était une de celles qui tombent, mais qui rebondissent, et la pièce tomba. En entrant en scène, Coralie ne fut pas applaudie et fut frappée par la froideur du parterre. Dans les loges, elle n'eut pas d'autres applaudissements que celui de Camusot. Des personnes placées au balcon et aux galeries firent taire le négociant par des chutes répétées. Les galeries imposèrent silence aux claqueurs, quand les claqueurs se livrèrent à des salves évidemment exagérées. Martainville applaudissait courageusement, et l'hypocrite Florine, Nathan, Merlin l'imitaient. Une fois la pièce tombée, il y eut foule dans la loge de Coralie. Mais cette foule aggrava le mal par les consolations qu'on lui donnait. L'actrice revint au désespoir moins pour elle que pour Lucien.
« Nous avons été trahis par Braulard, » dit-il.
Coralie eut une fièvre horrible. Elle était atteinte au cœur. Le lendemain, il lui fut impossible de jouer. Elle se vit arrêtée dans sa carrière. Lucien lui cacha les journaux. Il les décacheta dans la salle à manger. Tous les feuilletonistes attribuaient la chute de la pièce à Coralie.
elle avait trop présumé de ses forces. Elle, qui faisait les délices des boulevards, était déplacée au gymnase. Elle avait été poussée là par une louable ambition, mais elle n'avait pas consulté ses moyens. Elle avait mal pris son rôle. Lucien lut alors sur Coralie des tartines composées dans le système hypocrite de ses articles sur Nathan. Une rage digne de Milon de Crotone, quand il se sentit les mains prises dans le chêne qu'il avait ouvert lui-même, éclata chez Lucien. Il devint blême. Ses amis donnaient à Coralie, dans une phraséologie admirable de bonté, de complaisance et d'intérêt, les conseils les plus perfides. Elle devait jouer, y disait-on, des rôles que les perfides auteurs de ces feuilletons infâmes savaient être entièrement contraires à son talent. Tels étaient les journaux royalistes, serinés sans doute par Nathan. Quant aux journaux libéraux et aux petits journaux, ils déployaient les perfidies, les moqueries que Lucien avait pratiquées. Coralie entendit un ou deux sanglots. Elle sauta de son lit vers Lucien, aperçut les journaux, voulut les voir et les lut. Après cette lecture, elle alla se recoucher et garda le silence. Florine était de la conspiration. Elle en avait prévu l'issue, elle savait le rôle de Coralie. Elle avait eu Nathan pour répétiteur. L'administration, qui tenait à la pièce, voulut donner le rôle de Coralie à Florine. Le directeur vint trouver la pauvre actrice, elle était en larmes et abattue. Mais quand il lui dit devant Lucien que Florine savait le rôle et qu'il était impossible de ne pas donner la pièce le soir, elle se dressa, sauta hors du lit. « Je jouerai !» cria-t-elle. Elle tomba évanouie. Florine eut donc le rôle et s'y fit une réputation, car elle releva la pièce. Elle eut dans tous les journaux une ovation à partir de laquelle elle fut cette grande actrice que vous savez. Le triomphe de Florine exaspéra Lucien au plus haut degré. « Une misérable à laquelle tu as mis le pain à la main. Si le gymnase le veut, il peut racheter ton engagement. Je serai comte de Rubempré, je ferai fortune et t'épouserai. »« Quelle sottise !» dit Coralie en lui jetant un regard pâle. « Une sottise ? » cria Lucien. « Eh bien, dans quelques jours, tu habiteras une belle maison, tu auras un équipage et je te ferai un rôle. » Il prit 2000 francs et courut à Frascati. Le malheureux y resta 7 heures, dévoré par des furies, le visage calme et froid en apparence. Pendant cette journée et une partie de la nuit, il eut les chances les plus diverses. Il posséda jusqu'à 30 000 francs et sortit sans un sou. Quand il revint, il trouva Finot qui l'attendait pour avoir ses petits articles. Lucien commit la faute de se plaindre. « Ah, tout n'est pas rose !» répondit Finot. « Vous avez fait si brutalement votre demi-tour à gauche que vous deviez perdre l'appui de la presse libérale, bien plus forte que la presse ministérielle et royaliste. Il ne faut jamais passer d'un camp dans un autre sans s'être fait un bon lit où l'on se console des pertes auxquelles on doit s'attendre. Mais, dans tous les cas, un homme sage va voir ses amis, leur expose ses raisons, et se fait conseiller par eux son abjuration. Ils en deviennent les complices, ils vous plaignent, et l'on convient alors, comme Nathan et Merlin, leurs camarades, de se rendre des services mutuels. Les loups ne se mangent point. Vous avez eu, vous, en cette affaire, l'innocence d'un agneau. Vous serez forcé de montrer les dents à votre nouveau parti pour en tirer cuisse ou aile. Ainsi, l'on vous a sacrifié nécessairement à Nathan. Oh, je ne vous cacherai pas le bruit, le scandale et les criailleries que soulève votre article contre d'Arthez. Marat est un saint, comparé à vous. Il se prépare des attaques contre vous. Votre livre y succombera. Où en est-il, votre roman ?
Voici les dernières feuilles, dit Lucien en montrant un paquet d'épreuves.
On vous attribue les articles non signés des journaux ministériels et ultra contre ce petit d'Arthez. Maintenant, tous les jours, les coups d'épingle du réveil sont dirigés contre les gens de la rue des Quatre Vents, et les plaisanteries sont d'autant plus sanglantes qu'elles sont drôles. Il y a toute une coterie politique, grave et sérieuse, derrière le journal de Léon Giraud, une coterie à qui le pouvoir appartiendra tôt ou tard.
Je n'ai pas mis le pied au réveil depuis 8 jours.
Eh bien, pensez à mes petits articles. Faites-en 50 sur le champ. Je vous les paierai en masse, mais faites-les dans la couleur du journal.
Et Finot donna négligemment à Lucien le sujet d'un article plaisant contre le garde des Sceaux, en lui racontant une prétendue anecdote qui, lui dit-il, courait les salons. Pour réparer sa perte au jeu, Lucien retrouva, malgré son affaissement, de la verve, de la jeunesse d'esprit, et composa 30 articles de chacun 2 colonnes. Les articles finis, Lucien alla chez Doria, sûr d'y rencontrer Finot, auquel il voulait les remettre secrètement. Il avait d'ailleurs besoin de faire expliquer le libraire sur la non-publication des Marguerites. Il trouva la boutique pleine de ses ennemis. À son entrée, il y eut un silence complet. Les conversations cessèrent. En se voyant mis au banc du journalisme, Lucien se sentit un redoublement de courage et se dit à lui-même, comme dans l'allée du Luxembourg, « Je triompherai ». Doria ne fut ni protecteur ni doux. Il se montra goguenard, retranché dans son droit. Il ferait paraître les Marguerites à sa guise. Il attendrait que la position de Lucien en assurât le succès. Il avait acheté l'entière propriété. Quand Lucien objecta que Doria était tenu de publier ses Marguerites par la nature même du contrat et de la qualité des contractants, le libraire soutint le contraire et dit que, judiciairement, il ne pourrait être contraint à une opération qu'il jugeait mauvaise. Il était seul juge de l'opportunité. Il y avait d'ailleurs une solution que tous les tribunaux admettraient. Lucien était maître de rendre les 1000 écus, de reprendre son œuvre et de la faire publier par un libraire royaliste. Lucien se retira, plus piqué du ton modéré que Doria avait pris, qu'il ne l'avait été de sa pompe autocratique à leur première entrevue. Ainsi, les Marguerites ne seraient sans doute publiées qu'au moment où Lucien aurait pour lui les forces auxiliaires d'une camaraderie puissante, ou deviendrait formidable par lui-même. Le poète revint chez lui lentement, en proie à un découragement qui le menait au suicide, si l'action eût suivi la pensée. Il vit Coralie au lit, pâle et souffrante. « Un rôle où elle meurt !» lui dit Bérénice, pendant que Lucien s'habillait pour aller rue du Mont-Blanc chez Mademoiselle Destouches, qui donnait une grande soirée où il devait trouver des Lupeaux, Vignon, Blondet, Madame d'Espard et Madame de Bargeton. La soirée était donnée pour Conti, le grand compositeur qui possédait l'une des voix les plus célèbres en dehors de la scène, pour la Cinti, la Pasta, Garcia, Levasseur et 2 ou 3 voix illustres du beau monde. Lucien se glissa jusqu'à l'endroit où la marquise, sa cousine et Madame de Montcornet étaient assises. Le malheureux jeune homme prit un air léger,
content, heureux. Il plaisanta, se montra comme il était dans ses jours de splendeur. Il ne voulait point paraître avoir besoin du monde. Il s'étendit sur les services qu'il rendait au parti royaliste. Il en donna pour preuve les cris de haine que poussaient les libéraux. « Vous en serez bien largement récompensé, mon ami, » lui dit madame de Bargeton, en lui adressant un gracieux sourire. « Allez après-demain à la chancellerie avec le Héron et des Lupeaux, et vous y trouverez votre ordonnance signée par le roi. Le garde des Sceaux la porte demain au château. Mais il y a conseil, il reviendra tard. Néanmoins, si je savais le résultat dans la soirée, j'enverrai chez vous. Où demeurez-vous ?
Je viendrai, répondit Lucien, honteux d'avoir à dire qu'il demeurait rue de la Lune.
Les ducs de Lenoncourt et de Navarreins ont parlé de vous au roi, reprit la marquise. Ils ont vanté en vous un de ces dévouements absolus et entiers qui voulait une récompense éclatante afin de vous venger des persécutions du parti libéral. D'ailleurs, le nom et le titre des Rubempré, auxquels vous avez droit par votre mère, vont devenir illustres en vous. Le roi a dit à sa grandeur, le soir, de lui apporter une ordonnance pour autoriser le sieur Lucien Chardon à porter le nom et les titres des comtes de Rubempré, en sa qualité de petit-fils du dernier comte, par sa mère. « Favorisons les chardonnerets du Pinde, » a-t-il dit, après avoir lu votre sonnet sur le lys, dont s'est heureusement souvenue ma cousine, et qu'elle avait donné au duc. Surtout, quand le roi peut faire le miracle de les changer en aigle, a répondu M. de Navarreins.
Lucien eut une effusion de cœur qui aurait pu attendrir une femme moins profondément blessée que l'était Louise d'Espard de Nègrepelisse. Plus Lucien était beau, plus elle avait soif de vengeance. Des Lupeaux avait raison. Lucien manquait de tact. Il ne sut pas deviner que l'ordonnance dont on lui parlait n'était qu'une plaisanterie, comme savait en faire madame d'Espard. Enhardie par ce succès et par la distinction flatteuse que lui témoignait mademoiselle Destouches, il resta chez elle jusqu'à 2 heures du matin pour pouvoir lui parler en particulier. Lucien avait appris dans les bureaux des journaux royalistes que mademoiselle Destouches était la collaboratrice secrète d'une pièce où devait jouer la grande merveille du moment, la petite fée. Quand les salons furent déserts, il emmena mademoiselle Destouches sur un sofa dans le boudoir et lui raconta d'une façon si touchante le malheur de Coralie et le sien que cet illustre hermaphrodite lui promit de faire donner le rôle principal à Coralie. Le lendemain de cette soirée, au moment où Coralie, heureuse de la promesse de mademoiselle Destouches à Lucien, revenait à la vie et déjeunait avec son poète, Lucien lisait le journal de Lousteau où se trouvait le récit épigrammatique de l'anecdote inventée sur le garde des Sceaux et sur sa femme. La méchanceté la plus noire s'y cachait, sous l'esprit le plus incisif. Le roi Louis XVIII était admirablement mis en scène et ridiculisé sans que le parquet pût intervenir. Voici le fait auquel le parti libéral essayait de donner l'apparence de la vérité, mais qui n'a fait que grossir le nombre de ses spirituelles calomnies. La passion de Louis XVIII pour une correspondance galante et musquée, pleine de madrigaux et d'étincelles, y était interprétée comme la dernière expression de son amour qui devenait doctrinaire. Il passait, y disait-on, du fait à l'idée. L'illustre maîtresse, si cruellement attaquée par Béranger sous le nom d'Octavie,
avait conçu les craintes les plus sérieuses. La correspondance languissait. Plus Octavie déployait d'esprit, plus son amant se montrait froid et terne. Octavie avait fini par découvrir la cause de sa défaveur. Son pouvoir était menacé par les prémices et les épices d'une nouvelle correspondance du royal écrivain avec la femme du garde des Sceaux. Cette excellente femme était supposée incapable d'écrire un billet. Elle devait être purement et simplement l'éditeur responsable d'une audacieuse ambition. Qui pouvait être caché sous cette jupe? Après quelques observations, Octavie découvrit que le roi correspondait avec son ministre. Son plan est fait. Aidée par un ami fidèle, elle retient un jour le ministre à la chambre par une discussion orageuse et se ménage un tête-à-tête où elle révolte l'amour-propre du roi par la révélation de cette tromperie. Louis XVIII entre dans un accès de colère bourbonienne et royale, il éclate contre Octavie, il doute. Octavie offre une preuve immédiate en le priant d'écrire un mot qui voulut absolument une réponse. La malheureuse femme, surprise, envoie requérir son mari à la chambre. Mais tout était prévu. Dans ce moment, il occupait la tribune. La femme sue sang et eau, cherche tout son esprit et répond avec l'esprit qu'elle trouve. « Votre chancelier vous dira le reste, » s'écria Octavie en riant du désappointement du roi. Quoique mensonger, l'article piquait au vif le garde des Sceaux, sa femme et le roi. Des Lupeaux, à qui Finot a toujours gardé le secret, avait, dit-on, inventé l'anecdote. Ce spirituel et mordant article fit la joie des libéraux et celle du parti de Monsieur. Lucien s'en amusa, sans y voir autre chose qu'un très agréable canard. Il alla le lendemain prendre des Lupeaux et le baron du Châtelet. Le baron venait remercier sa grandeur. Le sieur Châtelet, nommé conseiller d'État en service extraordinaire, était fait compte avec la promesse de la préfecture de la Charente dès que le préfet actuel aurait fini les quelques mois nécessaires pour compléter le temps voulu pour lui faire obtenir le maximum de la retraite. Le comte du Châtelet, car le « dû » fut inséré dans l'ordonnance, prit Lucien dans sa voiture et le traita sur un pied d'égalité. Sans les articles de Lucien, il ne serait peut-être pas parvenu si promptement. La persécution des libéraux avait été comme un piédestal pour lui. Des Lupeaux était au ministère, dans le cabinet du secrétaire général. À l'aspect de Lucien, ce fonctionnaire fit un bond d'étonnement et regarda des Lupeaux. « Comment ? Vous osez venir ici, monsieur ? » dit le secrétaire général à Lucien, stupéfait. « Sa grandeur a déchiré votre ordonnance préparée. La voici. » Il montra le premier papier venu, déchiré en quatre. Le ministre a voulu connaître l'auteur de l'épouvantable article d'hier. Et voici la copie du numéro. Dit le secrétaire général en tendant à Lucien les feuillets de son article. « Vous vous dites royaliste, monsieur, et vous êtes collaborateur de cet infâme journal qui fait blanchir les cheveux aux ministres, qui chagrine les centres et nous entraîne dans un abîme. Vous déjeunez du corsaire, du miroir, du constitutionnel, du courrier. Vous dînez de la quotidienne, du réveil. » Et vous soupez avec Martainville, le plus terrible antagoniste du ministère, et qui pousse le roi vers l'absolutisme, ce qui l'amènerait à une révolution, tout aussi promptement que s'il se livrait à l'extrême gauche. Oh, vous êtes un très spirituel journaliste, mais vous ne serez jamais un homme politique. Le ministre vous a dénoncé, comme l'auteur de l'article, au roi, qui, dans sa colère, a grondé monsieur le duc de Navarreins son premier gentilhomme de service. Oh, vous vous êtes fait des ennemis d'autant plus puissants qu'il vous était plus favorable. Ce qui chez un ennemi semble naturel est épouvantable chez un ami.
Mais vous êtes donc un enfant, mon cher, dit des Lupeaulx.
Vous m'avez compromis. Mesdames d'Espard et de Bargeton, madame de Montcornet, qui avaient répondu de vous, doivent être furieuses. Le duc a dû faire retomber sa colère sur la marquise et la marquise a dû gronder sa cousine.
N'y allez pas, attendez.
Voici sa grandeur, sortez, dit le secrétaire général.
Lucien se trouva sur la place Vendôme, hébété comme un homme à qui l'on vient de donner sur la tête un coup d'assommoir. Il revint à pied sur les boulevards en essayant de se juger. Il se vit le jouet d'hommes envieux, avides et perfides. Qu'était-il dans ce monde d'ambition? Un enfant qui courait après les plaisirs et les jouissances de vanité, leur sacrifiant tout? Un poète, sans réflexion profonde, allant de lumière en lumière, comme un papillon, sans plan fixe, l'esclave des circonstances, pensant bien et agissant mal. Sa conscience fut un impitoyable bourreau. Enfin, il n'avait plus d'argent et se sentait épuisé de travail et de douleur. Ses articles ne passaient qu'après ceux de Merlin et de Nathan. Il allait à l'aventure, perdu dans ses réflexions. Il vit en marchant chez quelques cabinets littéraires qui commençaient à donner des livres en lecture avec les journaux, une affiche où, sous un titre bizarre, à lui tout à fait inconnu, brillait son nom. Par Monsieur Lucien Chardon de Rubempré. Son ouvrage paraissait, il n'en avait rien su, les journaux se taisaient. Il demeura les bras pendants, immobile, sans apercevoir un groupe de jeunes gens les plus élégants, parmi lesquels étaient Rastignac, de Marsay et quelques autres de sa connaissance. Il ne fit pas attention à Michel Chrestien et à Léon Giraud, qui venaient à lui.
« Vous êtes Monsieur Chardon ?» lui dit Michel, d'un ton qui fit résonner les entrailles de Lucien comme des cordes.
« Ne me connaissez-vous pas ? » répondit-il en pâlissant. Michel lui cracha au visage.
« Voilà les honoraires de vos articles contre d'Arthez. Si chacun, dans sa cause ou dans celle de ses amis, imitait ma conduite, la presse resterait ce qu'elle doit être, un sacerdoce respectable et respecté. »
Lucien avait chancelé. Il s'appuya sur Rastignac en lui disant, ainsi qu'à de Marsay,
« Messieurs, vous ne sauriez refuser d'être mes témoins, mais je veux d'abord rendre la partie égale et l'affaire sans remède. »
Lucien donna vivement un soufflet à Michel, qui ne s'y attendait pas. Les dandys et les amis de Michel se jetèrent entre le républicain et le royaliste, afin que cette lutte ne prît pas un caractère populacier. Rastignac saisit Lucien et l'emmena chez lui, rue Thébout, à deux pas de cette scène, qui avait lieu sur le boulevard de Gand à l'heure du dîner. Cette circonstance évita les rassemblements d'usage en pareil cas. De Marsay vint chercher Lucien, que les deux dandys forcèrent à dîner joyeusement avec eux au café anglais, où ils se grisèrent.
Êtes-vous fort à l'épée ? Lui dit de Marsay.
Je n'en ai jamais manié.
Au pistolet ? Dit Rastignac.
Je n'ai pas dans ma vie tiré un seul coup de pistolet.
Vous avez pour vous le hasard. Vous êtes un terrible adversaire. Vous pouvez tuer votre homme, dit de Marsay.
Lucien trouva fort heureusement Coralie au lit et endormie. L'actrice avait joué dans une petite pièce et, à l'improviste, elle avait repris sa revanche en obtenant des applaudissements légitimes et non stipendiés. Cette soirée,
à laquelle ne s'attendaient pas ses ennemis, détermina le directeur à lui donner le principal rôle dans la pièce de Camille Maupin. Car il avait fini par découvrir la cause de l'insuccès de Coralie à son début. Courroucé par les intrigues de Florine et de Nathan pour faire tomber une actrice à laquelle il tenait, le directeur avait promis à Coralie la protection de l'administration.